Jean-Claude Dupont, donc, il va nous parler de l'histoire de l'étude de la mémoire.
Donc, il a été beaucoup question dans ce colloque de la construction des connaissances, des représentations. L'exposé précédent a été extrêmement éclairant sur la construction des sciences cognitives, distinguant en particulier le plan cognitif du plan cérébral, c'est une distinction historique qui est pertinente, qui perdure. Et on retrouve évidemment cette dualité d'approche dans les sciences de la mémoire, dans les représentations donc, qui ont été construites concernant la mémoire. Les différentes mémoires répertoriées par les sciences cognitives actuelles reposent sur l'identification de différentes opérations cognitives. L'acquisition d'une technique conduit à identifier la mémoire procédurale, la maîtrise du langage, la mémoire sémantique, la distinction de la reconnaissance et du rappel oblige à distinguer mémoire implicite et mémoire explicite, etc. etc. L'homogénéité apparente de la mémoire est dissociée et éclate en une diversité de mémoires, et on assiste à une construction formelle de ces différentes fonctions mnésiques. Parallèlement, subsiste la question des bases cérébrales et plus généralement de l'inscription dans la matière vivante des traces du passé. C'est bien là le programme de recherche des neurosciences. J'ai choisi d'aborder cette question sous l'angle historique, rendre plus lumineuse la généalogie des faits, retracer la logique des enchaînements, sans faire disparaître les contenus, c'est le travail de l'historien. La question sera donc pour nous, comment la mémoire, dans son déterminisme organique, a-t-elle pu devenir un objet de connaissance? Les différentes théories biologiques de la mémoire sont comme autant de réponses tentées à cette question. Une de ces tentatives a consisté en l'association de deux phénomènes apparemment différents, la mémoire génétique, caractéristique d'une espèce, et la mémoire acquise par l'individu isolé sur la base de ses expériences. Deux phénomènes regroupés sous la représentation commune, sous le concept général de mémoire organique. Le dernier quart du XIXe siècle voit en effet naître ce concept de mémoire organique à la jonction de la biologie et de la psychologie. Au-delà d'un simple rapprochement, il s'agissait véritablement d'identifier mémoire héréditaire et mémoire mentale. La question de la mémoire humaine, de l'hérédité et celle de l'évolution biologique se sont trouvées directement ainsi liées. Comment les sciences de la fin du XIXe siècle ont-elles rendu cette identification possible et pour certains nécessaire, en dépit des controverses scientifiques? Pourquoi et comment se bâtiront ensuite et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre des théories élaborées de la mémoire organique? Comment ce concept de mémoire organique va-t-il ensuite dégénérer à l'arrivée de la biologie moléculaire? On se propose donc de comprendre quelques épisodes touchant la naissance, le développement et la mort de cette conception, de cette représentation avortée de la mémoire organique, vers la constitution de théories organiques ou biologiques de la mémoire. Et on espère de l'analyse historique de cet échec passé du matérialisme appliqué, comme disait Bachelard, on espère de cette analyse quelques éléments de réponse à la question suivante: à quelles conditions une biologie de la mémoire est-elle aujourd'hui malgré tout possible? Alors on pourrait être tenté de rechercher les origines du concept de mémoire organique au XVIIIe siècle dans le moléculisme de Buffon ou dans celui de Maupertuis. Pour Maupertuis, par exemple, les semences sont faites de particules provenant de tout le corps, c'est la pangénèse, particules qui possèdent entre elles certaines affinités de sorte qu'elles s'assemblent pour former le fœtus sous l'effet de forces d'attraction, analogues aux forces de Newton. Chacune d'elles va prendre dans l'ensemble la place exacte qu'elle doit y occuper. Et pour cela, les particules séminales sont douées de propriétés psychiques. Chacune d'elles conserve une espèce de souvenir de son ancienne situation. Notons que ce psychisme élémentaire des particules, donc postulé par Maupertuis, sert non seulement à expliquer la constitution du corps, mais aussi celle du psychisme et de son éventuel caractère héréditaire. Le psychisme de l'enfant est ainsi la résultante des psychismes élémentaires des particules dont il est composé. Et par là, il est aussi héréditaire que la forme du corps. On sait que Buffon échappera à cette « psychisation » entre guillemets, des molécules en les dotant de propriétés plastiques, leur permettant de conserver une partie du moule intérieur, ce qui n'explique pas, évidemment, l'hérédité du psychisme. Parallèlement à cette tradition de la compréhension de l'hérédité corporelle et même psychique comme phénomène matériel, donc parallèlement à ces théories organiques de l'hérédité, il existe toute une tradition de la compréhension de la mémoire psychique comme phénomène physiologique, donc des théories organiques de la mémoire. Et là encore, l'influence de Newton est patente. Au XVIIIe siècle, les modifications du matériel cérébral, fibreux, étaient la plupart du temps conçues comme des vibrations. Pour Newton, les esprits vibrants voyagent sous le contrôle de la volonté le long des filaments solides des nerfs, depuis les organes des sens jusqu'au cerveau et du cerveau aux muscles. Le philosophe David Hartley va combiner la théorie vibratoire de Newton avec l'associationnisme de Locke pour formuler une théorie organique de la mémoire. L'idée est conçue comme une modification de l'état vibratoire d'une portion du système nerveux. Si la vibration est le corrélat de l'idée, la composition des ondes est le corrélat de l'association. Enfin, l'impression des ondes, qui suppose que la matière nerveuse possède des propriétés plastiques remarquables, est le corrélat de la mémoire. La mémoire est donc physiquement représentée par la persistance de vibrations de basse intensité. Le naturaliste Charles Bonnet va formuler une théorie analogue, mais mentionne aussi des changements dans les molécules élémentaires des fibres qui ne seraient pas nécessairement vibratoires, mais de réarrangement, les molécules pouvant peut-être glisser les unes sur les autres. Cette tradition va se poursuivre au XIXe siècle avec le chimiste Jules Louis qui va adapter la théorie de la vibration à la terminologie de la chimie. Les vibrations persistent après la stimulation en vertu du phénomène de phosphorescence, dit-il. Les vibrations neurales sont analogues à celles des particules vibrantes d'une plaque photographique. Et le biologiste Jacques Loeb sera un des derniers défenseurs de cette théorie vibratoire de la mémoire. Très nombreuses, en réalité, ont été les représentations, les tentatives de compréhension des traces mémorielles par des analogies avec des phénomènes physiques ou chimiques. Les phénomènes vibratoires ou de résonance ont déjà été invoqués, comme on l'a vu chez Hartley et chez Bonnet, mais on évoquera aussi les mouvements ou rétention de fluides nerveux, le stockage de l'énergie électrique, le stockage magnétique, l'hystérésis, l'élasticité, le principe d'inertie, la cristallisation, la phosphorescence, déjà cité, et plus tard, les processus autocatalytiques et de réarrangement moléculaire. Alors, il convient de distinguer ces théories organiques de la mémoire des théories de la mémoire organique. Il ne suffit pas, en effet, pour bâtir une théorie de la mémoire organique, d'affirmer que la mémoire n'est pas une propriété abstraite de l'esprit, mais une propriété générale des nerfs, et que dans les nerfs, la mémoire s'exprime par une persistance des changements matériels correspondant aux idées. Le concept de mémoire organique implique l'identification explicite de la mémoire mentale et de la mémoire héréditaire. La préservation des expériences individuelles et celle des caractères héréditaires sont censées relever du même mécanisme physiologique. C'est le physiologiste viennois Ewald Hering qui exprime le mieux ce concept de mémoire organique dans sa fameuse dissertation sur la mémoire comme fonction universelle de la matière organisée, donc en 1870. Les travaux de Hering sur les organes sensoriels avaient fini par lui faire concevoir la mémoire comme une sorte de colle, unifiant ce qui serait autrement une série de sensations chaotiques et discontinues. La mémoire, définie comme faculté de reproduire inconsciemment les idées, ignore, dit Hering, que les habitudes souvent inconscientes lui sont aussi liées. Par ailleurs, la mémoire se maintient durant les périodes d'inconscience et de sommeil. Elle doit donc être considérée comme une capacité inhérente à notre substance cérébrale et obéir à des lois physiques. La mémoire est une faculté originale étant à la fois la source et l'unification de toute vie consciente, et cette unification du présent d'un organisme avec son passé se produit non seulement durant la durée de la vie de l'organisme, mais aussi à travers les générations. Elle s'étend à toutes les cellules corporelles, dit Ehring, incluant les cellules germinales, de sorte que lorsque la mémoire consciente de l'homme meurt, la mémoire inconsciente survit. La mémoire organique est un principe général d'adaptation et de rétention qui, lorsqu'il s'applique aux cellules germinales, devient le support organique expliquant l'hérédité des caractères acquis. Car la mémoire organique prétend réunir à la fois une théorie de l'hérédité et une théorie psychologique, mais aussi la théorie de l'évolution. Du même mécanisme physiologique relève l'adaptation des individus et des espèces et la persistance des caractéristiques physiques et mentales acquises à tous les stades du développement du germe à l'adulte. Un lien physiologique étroit existe entre l'adaptation fonctionnelle cérébrale et le processus morphogénétique, qui explique comment les caractéristiques physiques, mais aussi mentales acquises, peuvent passer les générations. Le paléontologue néo-lamarckien et américain Edward Cope conçoit la construction de l'embryon comme le déploiement d'un enregistrement qui est stocké dans le système nerveux central des parents et imprimé en plus ou moins grande partie sur le plasme du germe durant sa construction, dans l'ordre dans lequel il est stocké. Cet enregistrement est supposé inclus dans la texture de chaque cellule organique. Dans les cellules spécialisées, une partie de l'enregistrement peut avoir été détruite. Dans les cellules germinales, l'enregistrement complet de la structure ou mémoire s'exprime. En vertu de la récapitulation haeckelienne, c'est même l'ensemble de la phylogénie et de l'ontogénie qui relève de la mémoire organique et qui est susceptible d'être sous le contrôle du système nerveux central. Encore, Ehring limitait la mémoire organique aux produits cellulaires. Ernst Haeckel l'étend à toutes les molécules complexes, quelle que soit leur source, même inorganique. Haeckel désigne les unités d'hérédité sous le nom de plastidules. Ces plastidules, les plus fines particules visibles au microscope, sont de simples groupements d'atomes et sont sujettes à l'action du milieu qui peut modifier leurs propriétés, ce qui permet d'expliquer l'hérédité de l'acquis. La mémoire organique explique donc non seulement l'hérédité, mais aussi, par exemple, pour Haeckel, la cristallisation. En pathologie, le concept de mémoire organique transparaît dans la théorie de la dégénérescence de Bénédicte Morel et Valentin Magnan. Les troubles des arriérés, disent ces psychiatres, sont à rechercher dans l'hérédité et dans les affections acquises du jeune âge, alcoolisme, misère, etc. Pour que la dégénérescence soit progressive, chaque individu ajoute à son atavisme ses propres expériences. De sorte que les dégénérescences, bien sûr je cite, de sorte que les dégénérescences incurables sont la terminaison fatale d'une série d'existences antérieures qui se résument par leur côté maladif dans une existence individuelle. Fin de citation. L'influence de ces théories a été considérable. En Italie, par exemple, avec la thèse du criminel de Lombroso. En France, avec la notion d'hérédité pathologique, popularisée par le naturalisme en tant qu'école littéraire. En Angleterre, avec des écrivains comme Samuel Butler. Ainsi, je citerai simplement Zola. Les Rougon-Macquart, le groupe, la famille que je me propose d'étudier, a pour caractéristique le débordement des appétits, le large soulèvement de notre âge qui se rue aux jouissances. Physiologiquement, ils sont la lente succession des accidents nerveux et sanguins qui se déclarent dans une race à la suite d'une première lésion organique et qui déterminent, selon les individus de cette race, les sentiments, les désirs, les passions, toutes les manifestations humaines, naturelles et individuelles, dont les produits prennent les noms convenus de vertu et de vice. Donc, notons enfin, pour terminer avec cette première partie, que si la conscience et l'inconscient personnel peuvent être ontogéniquement développés et acquis, l'inconscient collectif, selon la théorie de la mémoire organique, peut être hérité. L'idée d'un inconscient phylogénétique collectif ou d'un inconscient ancestral sera particulièrement développée par Ribot et par le psychanalyste Carl Gustav Jung, et repose également sur ce concept de mémoire organique. Alors, toutes ces considérations, ontogénétiques, phylogénétiques, pathologiques, expliquent l'extraordinaire succès initial de la théorie de la mémoire organique. Ehring et quelques autres ne représentent que la première génération, en effet, des théoriciens de la mémoire organique. Une seconde génération se réclamant surtout de Ewald Hering et incluant Francis Darwin, Eugenio Rignano, Richard Semon, les fameux engrammes de Semon, prétendra donner une base scientifique au concept de mémoire organique, l'analogie mémoire-hérédité ayant été pour elle insuffisamment développée jusqu'alors. Alors les progrès de la génétique mendélo-morganienne vont signer bien sûr le déclin progressif de cette tradition de la mémoire organique, notamment parce qu'elle supposait l'hérédité de l'acquis. La génétique s'est engagée, la génétique au début du XXe, s'est engagée dans une voie différente, vers un autre type de formalisation, vers celle des unités d'hérédité et leur localisation chromosomique. Et les gènes n'ont, à l'évidence, rien à voir avec des engrammes. La mémoire organique va alors passer du statut de principe général à celui d'une description de l'hérédité génétique et de la mémoire psychologique, supposée mettre en jeu le même type de molécules. Comme l'explique Georges Chapoutier, l'histoire de la neurochimie des processus mnésiques peut être divisée en deux grandes périodes. La première, qu'il situe entre 1946 et 1978, faisait suite à la biologie moléculaire, qui montrait que l'information innée était codée dans l'ADN. On a donc recherché les bases chimiques d'un codage de la mémoire dans les macromolécules du cerveau. L'échec relatif, dit Chapoutier, de cette tentative a conduit à une seconde période, depuis 1978, de recherches plus modestes sur les corrélats chimiques des processus mnésiques, notamment au niveau des grands systèmes de neurotransmetteurs cérébraux. Sur un plan épistémologique, Georges Chapoutier fait d'ailleurs remarquer que des résultats de la première période ont pu être réutilisés au cours de la seconde dans le cadre d'une interprétation théorique différente. Les travaux concernant les mécanismes biochimiques de la mémoire ont en effet débuté après la découverte du rôle exercé par les acides nucléiques dans l'encodage de l'information génétique. Avec la découverte du code génétique, apparaît en effet frappante la ressemblance entre l'encodage de la mémoire génétique, caractéristique d'une espèce, et l'encodage des informations acquises par l'individu isolé sur la base de ses expériences. Des modèles spécifiques, basés sur le gène comme protéine, puis comme acide nucléique, vont apparaître, donnant même l'espoir illusoire de l'identification de molécules de mémoire. Du point de vue historique, Michel Morange met sur le compte d'un réductionnisme, encore cette question, excessif de la biologie moléculaire, naissante à l'époque, la recherche des molécules de mémoire. Du point de vue historique, elle pourrait relever aussi, selon nous, d'une rupture incomplète avec l'esprit analogique, ou, si l'on veut, d'une persistance du concept de mémoire organique ici impliqué à un niveau moléculaire. Et ceci au dépens de la construction de véritables théories organiques de la mémoire, de la construction d'une véritable biologie de la mémoire. Car cet échec nous fait comprendre à quelles conditions une biologie de la mémoire est aujourd'hui possible. L'abandon des analogies, fussent-elles physiologiques, au profit de l'invention de modèles spécifiques de la mémoire. Par analogie physiologique, on entend phénomène sensoriel, after image, réflexe, after disage, phénomène hormonaux, phénomène immunologique. D'autres analogies, par contre, auront une valeur plus heuristique et prendront la dimension d'un véritable programme de recherche. Ainsi en est-il de la fameuse analogie esprit-machine rapprochant mémoire naturelle et mémoire artificielle dans le cadre de la théorie de l'information, et qui reste, analogie qui reste, malgré tout, au fondement des sciences cognitives. Alors, on va se limiter ici, pour terminer, aux neurosciences, dont les travaux sur la plasticité cérébrale et les réseaux neuronaux relèvent de cette préoccupation, selon nous, de rompre avec les métaphores passées ou les analogies passées, tout en tirant parti de la théorie de l'information. De très nombreuses recherches, à partir donc des années 70, sur les supports neurobiologiques et neurochimiques de la mémoire, du cellulaire au moléculaire, ont ainsi utilisé ce concept de réseau neuronal plastique. Les modèles cellulaires théoriques, capables d'expliquer comment les expériences sont encodées et représentées dans les réseaux nerveux, sont plus ou moins directement liés au modèle de la mémoire proposé par Donald Hebb dans les années 50. Hebb émit l'hypothèse que lorsqu'un neurone envoie des messages bioélectriques répétés à un autre neurone, Le deuxième neurone devient graduellement plus sensible au message du premier. Ces neurones interconnectés appartiendraient à un anneau constitué de différents neurones qui, suite à une impulsion, formeraient une sorte de circuit réverbérant, c'est-à-dire parcouru par un courant électrique de façon circulaire. Cette situation serait à l'origine de la mémoire instable ou à court terme, alors que des stimulations répétées produiraient des modifications permanentes dans la structure neuronique. Elles seraient à l'origine de la mémoire durable ou à long terme. Pour Hebb, les traces mémorielles correspondent à des circuits dont les connexions, donc dont les synapses, s'ouvrent et se ferment en fonction de l'expérience. L'apprentissage résulte de la modification des synapses et le rappel du passage de l'influx dans les voies particulières concernées. Les changements, plus ou moins définitifs, permettant d'emmagasiner les souvenirs, ne concernent pas les cellules nerveuses unitaires. La multiplicité des contacts synaptiques, en revanche, pourrait constituer une banque de données d'un potentiel considérable. Le modèle de Hebb va rencontrer un concurrent avec celui de Carl Lashley, pour lequel le stockage des souvenirs est une propriété globale de la masse corticale. Mais il aura moins de succès que celui, le modèle de Lashley aura moins de succès que celui de circuit neuronal plastique, sous réserve de l'intervention de multiples circuits différents. Les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle vont confirmer beaucoup plus tard la mémoire comme un processus impliquant le fonctionnement d'un ensemble de circuits et de structures. Qu'est-ce que cette plasticité? À partir des idées de Hebb et de Lashley, les résultats anatomiques, physiologiques et biochimiques vont s'accumuler au cours des années 60 et 70. Pour tenter de prouver la réalité et de préciser la nature de cette plasticité qui n'était que postulée. Les recherches pouvaient être menées en comparant les cerveaux d'animaux ayant appris quelque chose et ceux d'animaux de contrôle qui ne l'ont pas fait. On peut également examiner sur les humains ou les animaux les effets des procédures qui améliorent ou ralentissent l'apprentissage et le rappel. Mais il existe des obstacles conceptuels et expérimentaux considérables. Le repérage de modifications biochimiques, physiologiques ou anatomiques n'est pas suffisant. Elles peuvent être corrélatives d'autres phénomènes accompagnant l'apprentissage, le stress, la stimulation sensorielle, etc. Plusieurs approches ont été proposées à partir des années 70 pour éviter une partie de ces obstacles. Techniques utilisant un type d'apprentissage particulier, comme l'empreinte chez le poussin, les techniques utilisant la sensibilisation ou l'habituation chez certains invertébrés, l'aplysie, travaux de Kandel, du prix Nobel Kandel, les techniques utilisant la sensibilisation ou l'habituation chez certains vertébrés. Les invertébrés ont été particulièrement utilisés, neurones de grande taille, en nombre limité, d'où circuits faciles à décrire et à impliquer dans des comportements simples. Une stratégie particulière utilisant la drosophile est l'altération du génome par un mutagène, suivi du test de l'aptitude de l'animal à l'apprentissage, en vue d'impliquer, bien sûr, certains gènes dans des aspects particuliers de l'apprentissage. Alors, pour terminer, je ne donnerai qu'un ou deux exemples de ces travaux qui visent à préciser les modifications structurales et fonctionnelles de neurones, donc cette plasticité. Pour tenter de relier les modifications fonctionnelles à des modifications morphologiques ou biochimiques, on a cherché d'abord à impliquer les acides nucléiques et les protéines, selon donc une certaine tradition, et ceci de deux manières différentes. Soit en dosant ces substances dans les régions du cerveau impliquées, travaux de Hayden, soit en mesurant l'incorporation des unités qui composent ces molécules, travaux de Horn. Ce sont des travaux anciens, bien entendu. Ainsi, en utilisant le modèle expérimental de l'empreinte, Horn et ses collaborateurs ont essayé de déterminer si ce type d'apprentissage correspondait à des modifications au niveau cérébral et constaté que l'empreinte se traduit en effet par une importante augmentation de la synthèse d'ARN dans certaines régions spécifiques. Cette augmentation signifierait que la mémoire et l'apprentissage des poussins sont fondés sur une augmentation de la synthèse des protéines, qui est le reflet des modifications de structure des neurones. Avant l'expérience, les synapses augmentent en nombre, permettant aux neurones de modifier leurs fonctions et d'établir des rapports plus importants avec les neurones voisins. La théorie chimique de la neurotransmission s'est trouvée en mesure de fournir des modèles de plasticité neuronale. Ce sera le deuxième exemple avec les travaux de Kandel. Les neurones communiquent entre eux en libérant des neurotransmetteurs qui agissent sur des récepteurs spécifiques situés à la surface d'autres synapses. Quand une molécule de neurotransmetteur se fixe sur un récepteur, la synapse est transitoirement activée. Les neurones polysynaptiques sont excités ou inhibés. Les synapses pourraient cependant s'acheminer vers des modifications stables. Et ces dernières seraient avec les modifications transitoires à la base de la plasticité. Les bases de cette neuroplasticité et les modalités particulières de la neurotransmission liées à la mémoire et à l'apprentissage ont été précisées par le prix Nobel Eric Kandel. Alors, je vais peut-être maintenant conclure. La science vivante, finalement, véhicule toujours de manière indissoluble du vrai, du probable, du douteux. L'histoire des sciences de la mémoire n'est peut-être encore que celle de problèmes non résolus. Corréla biologique de la multiplicité des mémoires révélées par la pathologie et surtout les sciences cognitives. Stockage dans le cerveau de grandes quantités d'informations. Brièveté d'expériences pourtant stockées à long terme. Mécanismes de rappel. Variations interspécifiques des mécanismes cérébraux, etc., etc. En dépit de succès incontestables, la matérialisation des processus mnésiques, l'identification et la localisation des traces mémorielles qui font partie du rêve et, en tout cas, sinon du rêve, du moins du programme de recherche des sciences de la mémoire, se révèlent longues et difficiles. De ce travail des sciences de la mémoire en train de se faire, de cette science inachevée du présent, l'historien doit rendre compte. Et l'histoire montre que leur édification est passée par le renoncement sous peine d'échec, exemple la théorie de la mémoire organique, donc le renoncement sous peine d'échec aux vieilles analogies, vers l'invention d'authentiques théories biologiques de la mémoire. Je vous remercie.
Merci Jean-Claude Dupont pour cet exposé qui nous fait passer bien de ce qui a été abordé ce matin, c'est-à-dire la présentation générale des sciences cognitives et le pont historique entre l'origine de la réflexion sur le cerveau et sur la cognition jusqu'à l'état présent à travers l'exemple particulier de la mémorisation, de la mémoire. Est-ce qu'il y a des questions, Madame? On vous apporte le micro. Donc la question est celle de la relation entre la notion d'engramme et la notion de plasticité.
Alors, la notion d'engramme, enfin le terme d'engramme a été introduite par un théoricien de la mémoire organique qui s'appelle Richard Semon, qui est très connu outre-Atlantique et qui est très connu des psychologues qui font l'histoire du cognitivisme. Pour Semon, c'est d'ailleurs, soit dit en passant, le seul terme de toute la terminologie de Semon, qui est une terminologie allemande, qui a perduré et qui persiste jusqu'à nous. Donc cette notion d'engramme, de trace mémorielle, en quelque sorte. Alors, Semon concevait les engrammes comme des enregistrements qui seraient localisés au niveau de chaque cellule. Les cellules somatiques et les cellules germinales. Les cellules somatiques, dont les cellules cérébrales. Donc, finalement, les mécanismes physiologiques du stockage, du souvenir, ne seraient pas fondamentalement différents, donc au niveau cérébral, ne seraient pas fondamentalement différents du mécanisme de stockage des caractères, au fond, physiques de l'individu, donc sous forme, donc finalement, de la génétique de l'individu. Finalement, c'est une tentative d'unification, on pourrait dire, prématurée, qui correspond aussi à un rêve allemand de l'unification, qui est constant au XIXe siècle, de l'unification de toutes les sciences, un rêve eucalien aussi. Donc une sorte de tentative d'unification de la neurobiologie et finalement de la génétique. En termes modernes, on pourrait interpréter ça de cette façon. Alors, qu'en est-il de la plasticité? Alors évidemment, Semmon ne conçoit pas cette notion de plasticité telle que l'a développée Hebb et Lashley. Et là, il y a une véritable, surtout Hebb, et il y a, enfin, telle que l'a développée de façon théorique Hebb. Et là, il y a une véritable rupture épistémologique. Donc évidemment, en tant qu'historien d'inspiration bachelardeau, canguilhémienne, je suis extrêmement attaché à cette idée de rupture. Et donc l'histoire des sciences de la mémoire en particulier n'est pas une sorte de long développement de cette notion d'engramme. Donc ça n'est pas simplement la matérialisation lente et une sorte de triomphe, de marche triomphale vers la matérialisation des souvenirs au niveau cérébral. Donc pour répondre à la question, donc la notion de plasticité est une notion beaucoup plus récente, en fait une notion théorique beaucoup plus récente qui est absente chez les théoriciens de la mémoire organique. Alors, ce que je pourrais vous en dire d'un point de vue théorique en ce qui me concerne n'est pas très intéressant, je pense que Marc Jeannerot, par exemple, va développer ce type de questions dans les exposés ultérieurs, dans un exposé ultérieur. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Et nous avons le temps pour une autre question. Quelqu'un souhaiterait, madame? Excusez-moi, pendant ce temps-là, je pense que monsieur, vous pouvez commencer à installer l'ordinateur de monsieur Jeannerot. Madame?
Merci. Je voulais simplement vous demander pourquoi vous n'avez jamais cité ou fait allusion à ce texte de Freud qui est de 1895, qui est l'essai pour une psychologie scientifique, qui me paraît se placer à titre d'un résumé qui a des côtés délirants, des préoccupations, d'inscription dans la matière, mais aussi où il élabore l'idée de traces et de frayage de traces.
Absolument. Alors je n'ai pas cité Freud, mais j'ai quand même cité Jung. Donc oui, tout à fait. Alors il est certain que dans cette perspective d'une histoire des traces mémorielles, en fait, qui est la mienne, Freud aura une très bonne place. Simplement, il s'agit du premier Freud. Ça, c'est très clair. Donc là aussi, il y a dans la vie scientifique de Freud toute une élaboration. Donc le jeune Freud aura une place a une place centrale dans cette histoire, tout à fait. Oui.
Petite dernière question pendant la mise au point technique et pendant qu'on nous voit encore. Je ne sais pas s'il y a une main qui se lève puisque l'obscurité s'est faite, non?
Personne. De toute façon, moi, je suis...
Bien, je remercie beaucoup Jean-Claude Dupont et je vais donner maintenant la parole...